profession philosophe, mais être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprendre? Comment le transmettre? Comment se fabriquent les idées? Et comment se forge un concept? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui est l'enfant des mathématiques et de la poésie, au sens propre du terme, puisqu'il naît d'un père mathématicien et d'une mère prof de français au Maroc, à Rabat, en 1937. De cette union est née sa philosophie, qu'il conçoit comme un système structuré entre, d'un côté, l'être, et de l'autre, l'événement. Son travail est celui des rencontres, entre exigences mathématiques et envolées lyriques, engagement communiste et engouement romanesque, entre l'amour et le théâtre, le cinéma et Richard Wagner. Et ces rencontres s'expriment dans une centaine d'ouvrages, hors ouvrages collectifs, dont il est l'auteur. Son nom, Badiou, Alain Badiou. Et parmi ses personnages de fiction préférés, on trouve les cow-boys de John Ford et Charlot, par Charlie Chaplin.
La spinage en la bouchon, cigarette pote bello, si raki spaghetto, j'ai le tout là, t'il est toi. Signora Pilassine, voulez-vous la taxi mite? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa.
Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous avez un point commun avec le Charlot des temps modernes qui donne sa version yaourt de la chanson Titine?
Je ne sais pas. Il y a un côté vagabond multiforme chez Chaplin qui me plaît, en tout cas, auquel je peux m'identifier.
C'est vrai.
C'est-à-dire le fait que ce qui lui arrive, les aventures qui sont les siennes, sont toujours liées de sa part à, en réalité, un régime de décision très particulier, qui est la décision nomade, comme ça, faire face aux circonstances, mais aussi se révolter contre elles, mais aussi... Tout ça fait de ce personnage un personnage, évidemment, étonnant. Et après tout... Le philosophe, ça peut ressembler à ça aussi. Il y a toujours un côté nomade, un côté recherche de l'extériorité à ce qui est trop évident, etc., qui fait que on peut dire que c'est une pensée nomade ou clocharde.
Charlot fait rire. Est-ce que le philosophe doit ou peut faire rire?
Il n'a pas une grande réputation de ce côté-là, alors qu'il la mérite en un certain sens.
Le philosophe.
Oui, le philosophe n'a pas une grande réputation, il ne passe pas pour un homme particulièrement comique. Hein. Évidemment, si on pense à Kant, on ne voit pas tout de suite surgir la comédie. Mais en même temps, si on lit de près quelque chose comme les dialogues de Platon, il y a des passages qui sont très proches de la comédie. Il a traité comiquement le personnage du sophiste parce que c'était son adversaire, comme ça. Il a donc fallu rebâtir une comédie pour le présenter au public. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas antinomie absolue entre le philosophe et la capacité de faire rire ou de rire. Et on a ri de lui depuis l'origine, depuis la fameuse histoire de Thalès tombant dans un puits parce qu'il regardait les astres et qu'une servante a salué d'un grand rire.
Et vous aimez faire rire, vous, Alain Badiou, n'est-ce pas?
Oui, moi j'aime bien faire rire, et en plus j'ai écrit des comédies, explicitement.
Alors on va passer 50 minutes ensemble, 50 minutes au cours desquelles on va remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, découvrir vos sources d'inspiration philosophique et extra-philosophique, pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts et réfléchir avec vous au rôle politique de la philosophie. Mais avant cela, s'il fallait énoncer un concept autour duquel s'articule votre travail, il y en aurait sans doute deux. L'être d'un côté, l'événement de l'autre. L'être et l'événement. Être et événement, c'est le titre d'un livre qui paraît de votre plume, donc en 1988, dont le troisième volume est paru en 2018. Et c'est-à-dire que dans cette trilogie, vous avez élaboré ce qu'on pourrait appeler un système philosophique qui donc s'inscrit sous ces deux concepts que seraient l'être et l'événement.
Oui, ça, je pense que indubitablement, si on prend la trilogie avec sans doute théorie du sujet comme une sorte de prologue, parce que c'était un prologue trop marqué encore par les années 60, je pense qu'on peut dire qu'il s'agissait d'une entreprise systématique. Oui, systématique en un sens d'ailleurs qui se distribue assez simplement dans l'être et l'événement. Eh bien, il est question de l'être et de l'événement, il est question donc des concepts fondateurs et fondamentaux de tout le système. Dans le deuxième, logique des mondes, il est question de la singularité et de ce que c'est qu'un monde particulier. Et dans le troisième, l'immanence des vérités, il est question de la possibilité de quelque chose d'absolu sous le nom de vérité. Donc c'est une trajectoire aussi.
L'être serait du côté de ce qui est permanent, quand l'événement serait une manière de fendre cette permanence ?
Oui, on peut, peut-être plus radicalement, l'être est du côté de ce qui se présente comme une multiplicité consistante, voilà, simplement, un multiple qui...
Donc tient... c'est multiple, c'est pas un, l'être n'est pas
non,
un.
Non, l'être n'est pas un, ça c'est bien, quelque chose de théologique est éliminé dès le début. Donc je suis plutôt du côté des atomismes, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'être est multiplicité pure, voilà. Tandis que l'événement est du côté d'une sorte de frappe, il est du côté du hasard qui peut frapper une multiplicité, de quelque chose qui est une multiplicité aussi, mais qui est une multiplicité passagère, contingente, imprévue, qui ne tombe pas sous les lois de la consistance du multiple. Et c'est à partir de ce hasard que va se développer la possibilité de la création.
Et comment vous en êtes arrivé à élaborer ce système ? Comment est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit « mais c'est l'être et l'événement qui expliquent la manière dont je conçois le monde » ?
Alors ça, c'est toute une histoire tout de même.
Hein. C'est ça qui est intéressant.
Dans laquelle est saisie d'emblée la figure de mon entrée dans la philosophie. Je ne me décidais pas du tout à être philosophe. Quand j'étais en classe terminale, d'ailleurs scientifique et non pas en classe de philosophie, j'hésitais entre deux professions, comédien ou inspecteur des eaux et forêts. Voilà, ça c'était mes déterminations. Alors comédien, parce que j'avais déjà été acteur, j'avais joué les Faubourgs Capins, j'étais déjà du côté du théâtre, très fortement. Et inspecteur des eaux et forêts, parce que j'avais un rapport continu à la nature, j'étais un grand collectionneur de coléoptères, etc. Et donc je me mouvais dans cette antinomie quand même entre inspecteur des eaux et forêts, en passant par la grande école qui y prépare, ou comédien en se livrant alors là au nomadisme du capitaine Fracasse, voilà. Et puis je suis alors là c'est un événement d'une certaine manière, c'est une rencontre absolument hasardeuse. Je suis tombé dans la bibliothèque de ma mère que je fouillais périodiquement. Elle était prof de français, elle avait une bibliothèque bien nourrie et une bibliothèque un peu chaotique, ce qui me plaisait, hein, un peu réduite à ses goûts anarchiques. Et je tombe sur quelque chose qui s'appelle « Esquisse d'une théorie des émotions » de Jean-Paul Sartre. Et je lis ce livre, et ce livre m'a convaincu que là était la chose qui m'intéressait le plus. Voilà.
Et c'était quoi, cette chose qui vous intéressait?
Cette chose, ça s'appelait la philosophie.
Mais comment vous l'avez définie à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, je l'ai définie par un intérêt singulier pour Sartre. Je suis devenu sartrien.
Ah, c'est voilà. Sartre qui vous a
d'autant
converti.
D'autant que, après avoir lu « La théorie des émotions », petit livre phénoménologique, comme ça, de Sartre, je me suis plongé dans l'être et le néant, en me disant, il faut aller droit à ce qui semble être le plus massif, le plus considérable.
Vous aviez quel âge?
Entre 16 et 17. Mmh. Voilà. Et j'ai lu intégralement l'être et l'événement, avec difficulté.
L'être et le néant.
L'être et le néant, pardon.
L'être et l'événement, c'est vous.
Oui, mais l'être et l'événement, c'est plus tard. Et j'ai lu l'être et le néant avec passion, avec pas mal de difficultés aussi, parce que ma culture philosophique était très faible. J'avais un professeur de philosophie en classe terminale, mais il n'a vraiment pas réussi, lui, à me passionner pour la philosophie, je dois dire. Il était trop marqué par, au fond, un enseignement lent, un peu sceptique, un peu « nous cherchons la vérité, mais nous ne la trouvons pas », des choses de ce genre, « l'homme est un être qui doit douter », tout ça me...
Il y a des grands philosophes qui tiennent les mêmes propos.
Hein. Ah oui, oui, des très grands même, ouais. Des très grands. Non, mais là, je ne lui reproche pas ce qu'il disait, mais ça ne me passionnait pas, quoi. Ça ne m'aurait jamais entraîné du côté de la philosophie. Voilà, alors j'ai donc fait une entrée existentialiste dans la philosophie à l'âge de 16-17 ans. Et puis ensuite, en vérité, j'ai été pris après être... Du coup, j'ai basculé du côté des études littéraires. Pour le dire en langage, en jargon du scolaire français, je m'apprêtais à entrer en taupe et je suis entré en cagne. Voilà.
Donc prépa scientifique, prépa littéraire.
Exactement. Et donc j'ai finalement choisi ma mère contre mon père quand même, dans un premier temps. Ce qui est logique en un sens. Et j'ai continué à être dans cette figure de l'existentialisme. Je me suis mêlé des controverses de l'époque. J'ai écrit une lettre à Simone de Beauvoir à propos de son intervention sur la querelle avec Merleau-Ponty, etc. Donc je suis entré dans l'univers sartrien. Et puis je suis allé à Louis-le-Grand, je suis entré à l'école normale, j'ai passé l'agrégation. Dans tout ce parcours-là, je reste dans une dominante existentialiste sartrienne.
Vous l'avez rencontré, Jean-Paul Sartre ?
J'ai rencontré, rarement, j'ai beaucoup plus rencontré Simone de Beauvoir, encore une préférence féminine, voilà, avec qui j'avais eu à un moment donné des rendez-vous réguliers, suite justement à la lettre que je lui avais envoyée, un peu polémique d'ailleurs, sur la manière dont elle avait, elle, réagi dans un journal à la querelle entre Sartre et Merleau-Ponty. Et voilà, et puis, à travers tout ça, comme un autre filon a travaillé à l'intérieur de cette donnée très très de disciple, au fond, la classique donnée du disciple, c'est comme ça que presque toute philosophie commence, un autre élément a travaillé qui relevait quand même de ce qui était en train de devenir dominant à l'époque, à savoir les différentes figures du structuralisme. Et ces différentes du structuralisme, je les ai accueillies, bien entendu, en lisant les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, des choses de cet ordre, mais je les ai d'autant plus accueillis que, malgré tout, le côté paternel se manifestait par un goût indestructible pour les mathématiques. Et c'est lui qui m'avait vraiment converti aux mathématiques. Mathématiques, je faisais des problèmes de maths comme tout le monde, mais en terminale, il a été mon professeur de mathématiques.
Qui ça ?
Mon père. Et il m'a révélé la grandeur des mathématiques. C'est-à-dire, c'était pas simplement faire des problèmes, se débrouiller, mais il escortait son enseignement d'une sorte de présentation des objectifs, de la singularité des mathématiques. Il m'avait passionné pour les mathématiques. Et donc, je pense que ce qui finalement est devenu la chimie première de ma vocation de philosophe, ça a été la question de savoir comment, dans une figure dominée par la question du sujet, de la conscience, de la liberté, à savoir le Sartre, comment pouvait se glisser cette espèce d'élément de certitude formelle tout à fait particulière qu'on trouve dans les mathématiques.
Et puis, vous avez fait la rencontre de ce philosophe.
De l'aveu de Marx lui-même, c'est vers 1845 qu'en accord avec Engels, il entreprend de liquider sa conscience philosophique d'autrefois. L'expression est en propre terme dans les textes de Marx. Cette liquidation, nous la trouvons dans un écrit qui s'intitule « L'idéologie allemande » et qui a pour objectif essentiel de mettre un terme critique à la philosophie anthropologique antérieure de Marx. Par conséquent, cette coupure est extrêmement importante pour notre propos, c'est-à-dire qu'elle nous invite à distinguer dans Marx une première période philosophique au sens classique du terme et une seconde période qui n'est plus philosophique dans ce même sens, et à propos de laquelle peut se poser la question, est-ce que Marx a été encore philosophe après cette rupture avec la philosophie traditionnelle ?
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, avec aujourd'hui, vendredi, Alain Badiou, qui est au micro des chemins de la philosophie. Et nous venons d'entendre la voix de Louis Althusser, vous l'aurez sans doute reconnu, Alain Badiou, Louis Althusser, qui a compté pour vous à ce moment-là de votre formation philosophique.
Althusser a beaucoup compté pour plusieurs raisons. D'abord, il était un remarquable pédagogue. Il pouvait vraiment passionner le groupe des normaliens auquel il faisait cours et dont il corrigeait les copies, pour des nouveautés, pour l'analyse de Marx. Mais aussi, je me souviens, l'année de l'agrégation, Rousseau était au programme, et il m'avait avoué ne pas bien connaître Rousseau. Or, il a fait des cours splendides sur Rousseau. Et il avait relu l'Émile pendant la nuit, il était passionné, il avait trouvé plein d'idées. C'était un personnage tout à fait étonnant, avec une espèce de densité, comme ça, de compacité. Donc oui, il m'a passionné comme professeur, et puis il m'a aussi passionné par le fait qu'il menait auprès de moi une lutte continue contre l'existentialisme et Sartre. Voilà. Et donc il tentait de me déplacer comme ça hors de cet univers, parce que j'étais, il faut bien le dire, son bon élève, et il souhaitait que ce bon élève Il souhaitait le tirer un peu de son côté, quand même. Ça a eu certainement des effets, y compris sur l'importance que j'ai attribuée à cette époque à me rapprocher de Marx, de l'étude de Marx. Mais ça, ça a eu des effets politiques beaucoup plus que spéculatifs ou philosophiques. Ça, c'était un premier point. Puis le deuxième point était évidemment son être communiste, sa capacité militante. Donc, c'était un personnage qui, évidemment, a joué un rôle éducatif très important pour moi. Mais le fond de l'affaire était comment intégrer à cette figure existentielle centrée sur la question du sujet quelque chose de l'amour des mathématiques qui paraissent toujours, elles, extraordinairement asubjectives. C'est-à-dire qu'ils sont comme un formalisme intangible auquel on accède, mais cet accès au formalisme doit le respecter intégralement. Et évidemment, les mathématiques sont dominées par la notion universelle de preuve, et si vous ne comprenez pas la preuve, eh bien, vous êtes absent aux mathématiques, purement et simplement. Et puis, à travers les mathématiques, le structuralisme, de façon plus générale. Alors, il y avait là une antinomie, parce que ceux qui se référaient au structuralisme, y compris Althusser, qui s'y est référé de façon grandissante pendant ces années-là, en tiraient la conséquence que la notion de sujet était périmée. Et effectivement, Althusser est allé jusqu'à dire, en vérité, la théorie marxiste, c'est une théorie de l'histoire sans sujet. Alors ça ne me convenait pas du tout, parce que j'étais trop quand même imprégné de la doctrine proprement subjective et négativiste de Sartre pour pouvoir accéder à l'idée que sujet était une catégorie obsolète. Et donc, au fond, mon but stratégique a été de réconcilier le structuralisme et le formalisme mathématique avec la catégorie de sujet. Et je pense que j'ai forgé une ontologie générale dans laquelle je parvenais à proposer une résolution de cette contradiction.
Et pourquoi fallait-il à tout prix résoudre cette contradiction ?
Je voulais à tout prix résoudre cette contradiction parce qu'elle était la mienne, après tout, c'est pour ça.
C'est ça qui m'intéresse, oui, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est pas simplement votre père et votre mère que vous vouliez réconcilier.
Mais un petit peu tout de même. J'ai quelquefois accepté de dire que c'était la réconciliation de mon père et de ma mère, que c'était la réconciliation aussi peut-être de ma vocation nomadique et théâtrale d'un côté, et puis d'une certaine attirance pour les formalismes rigides de l'autre. Et qu'au fond, je me disais, il est impossible qu'il faille sacrifier la catégorie de sujet et tout ce qui va avec, uniquement parce que soit on aime les mathématiques, soit plus généralement parce qu'on pense que la loi de l'être est un structuralisme porteur de nécessité, finalement. C'était aussi une question entre liberté et nécessité, bien entendu, cette affaire. Une vieille antinomie, hein, remontant aux Grecs.
Est-ce que vous arrivez à proposer une définition de ce qu'est la philosophie ? C'est généralement le moment où mes invités, qui défilent à votre place derrière ce micro, Alain Badiou, frôlent de plus près la langue de bois, comme des invités politiques, parce que je me rends bien compte qu'à cette question, chaque philosophe a une réponse toute faite, et en fait, ça tient pas vraiment. Alors, qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, moi, je répondrai par la définition la plus classique, finalement. En définitive, le cœur de la philosophie, c'est de penser ou de produire une notion ou un concept de la vérité. Donc, je retrouvais quasiment...
Ce qui appelle une autre question, vous l'entendez bien. Comment est-ce qu'on définit la vérité ?
Pour l'instant, elle est absente. Mais, au fond, ça, c'était... Là, je peux rendre hommage à mon professeur de philosophie de terminale qui ne m'avait pas enthousiasmé. Mais en tout cas, il avait laissé cette trace que la philosophie, c'était la recherche de la vérité. Voilà, la vieille notion, en effet, tout à fait appropriée à l'enseignement scolaire. Eh bien, finalement, je la retrouvais quand même, cette vieille notion. Et au bout du compte, c'est bien autour de vérité, du mot vérité, que les choses vont tourner. Et j'en vois le signe, la preuve, dans le fait que le dernier volume de la trilogie dont nous avons parlé tout à l'heure s'appelle « L'immanence des vérités ». Et donc c'est quand même ce mot-là qui finalement finit par l'emporter sur tous les autres.
Alors comment définissez-vous la vérité ?
Alors,
enfin les, puisque là vous l'employez au pluriel en plus.
Alors oui, pour commencer, je ne l'emploie que au pluriel, l'immanence des vérités. Par conséquent, je considère qu'une vérité, c'est toujours le résultat d'un processus créateur, et que donc elle ne se déduit pas des structures de l'être tel qu'il est. Et la vérité n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le réel en tant que tel, ou dans la figure des multiplicités existantes telles qu'elles se déploient. La vérité est donc une construction, un processus. Je parle généralement de procédure de vérité, c'est une procédure des vérités. Et comme une vérité est une création, qui ensuite va s'intégrer à des situations différenciées et à des univers disparates, il faut bien comprendre qu'elle ne peut pas être trouvée dans la situation elle-même. J'appelle situation une multiplicité quelconque, hein, voilà. Et donc il faut que quelque chose arrive. Et c'est là qu'entre en scène la fonction de l'événement. Mmh. C'est-à-dire toute vérité s'origine dans un événement, c'est-à-dire dans une sorte de frappe d'une multiplicité réglée, qui a ses lois propres, qui a son organisation singulière. Quelque chose comme une frappe vient là, qui dérègle localement l'organisation des choses et donne l'envoi d'une possible vérité. L'événement est créateur de possibilités, il n'est pas créateur. Ce serait inexact de dire l'événement est créateur d'une vérité, c'est pas du tout ça. L'événement est créateur d'un dérèglement local qui autorise le développement d'une création, c'est, entendant par création, une multiplicité qui n'était pas prévue ou prévisible dans la situation telle qu'elle est.
C'est la définition du Kleinamen par Lucrèce.
C'est absolument la définition du Kleinamen par Lucrèce, et d'ailleurs je le dis moi-même, le Kleinamen a été une de mes sources d'inspiration dans toute cette affaire. C'est pour ça aussi, c'était d'autant plus intéressant pour moi que le Kleinamen s'inscrit chez Lucrèce et chez Démocrite comme ce qui va altérer une multiplicité existante. Et au fond, je suis atomiste, en un certain sens, je ne pense qu'il n'y a que des multiplicités quelconques, et que l'événement est leur Kleinamen.
Et alors comment passe-t-on, encore un point là-dessus, avant qu'on explore vos sources d'inspiration qui sont loin d'être uniquement philosophiques, comment passe-t-on d'une telle pensée de l'événement, donc comme étant ce qui fait irruption dans une multiplicité, et donc ce que vous appelez aussi la vérité comme un processus, comment passe-t-on donc de cette conception-là à celle du sujet? Parce que ce que vous dites peut très bien se passer de sujet.
Eh bien, justement, non. C'est-à-dire que le sujet est ce qui va porter dans la disparition de l'événement, ce qui va porter le choix d'en organiser les conséquences. C'est-à-dire, au fond, beaucoup d'événements restent événementiels et disparaissent, car c'est la loi de tout événement, d'avoir lieu, d'arriver et non pas d'être. Donc il est certain que l'univers est rempli d'événements stériles. Pour qu'un événement soit effectivement le support ou l'origine d'une création, il faut un processus à l'intérieur de la situation elle-même, donc à l'intérieur des multiplicités existantes et de leurs lois, qui, bricolant en quelque sorte le déplacement originel des multiplicités par l'événement, va faire surgir à l'intérieur de la situation quelque chose qui n'était pas prévisible selon les lois de la situation elle-même. La définition de toute création. Voilà. Et au fond, il y a là un mélange de hasard et de rigueur. C'est-à-dire, l'événement est hasardeux, absolument, il est proprement incalculable du point de vue des lois de la situation, mais la procédure de vérité proprement dite est, elle, interne à la situation et elle tire, en quelque sorte, des conséquences à l'intérieur de la situation de l'événement lui-même, produisant ainsi quelque chose qui fait vérité. Alors, ça fait vérité pourquoi ? Ça fait vérité parce que c'est justement en exception de la singularité des lois de la situation, puisque c'est une procédure supplémentaire dont l'origine est aléatoire. Et donc cette création va s'ajouter à la situation, mais non pas en résulter. C'est ce qui va faire qu'elle est peut-être en capacité d'universalité. Parce que n'étant pas tributaire immédiatement des lois de la situation, peut-elle être appropriée, et ressuscitée, je dis quelquefois, ressuscitée dans une situation tout à fait différente.
Donc là, c'est le sujet qui donne son sens à l'événement.
C'est le sujet qui choisit de donner son sens à l'événement
et qui
crée quelque chose en support de ce sens.
Donc en fait, Lucrèce et Sartre se rencontrent dans votre philosophie.
Eh bien, vous avez parfaitement vu le but secret de tout ça, en un certain sens.
Secret polichinelle.
Le Sartre maternel et le Lucrèce paternel se réconcilient en effet dans cet espace. Mais je suis en même temps très très inspiré par ce qu'on aura l'occasion d'en parler, ce que j'appelle les conditions de la philosophie, comme exemple de ça. Un exemple très frappant, c'est les conditions dans lesquelles la mathématique a surgi en Grèce. Elle a surgi dans un univers tout à fait hétérogène à ça, un univers que l'on ressent très bien quand on lit Parménide, qui est encore hanté par Homère, les divinités, la déesse, etc. Donc un univers dans lequel néanmoins quelque chose va se glisser, dont on a pu montrer que c'était à l'origine de la rigueur de la pensée mathématique, c'est-à-dire l'idée d'un être nu, de quelque chose et dont le nombre va être vraiment le symbole. Eh bien, cette vérité mathématique, créée par les Grecs autour du IVe siècle, elle va être pratiquement oubliée entièrement dans une autre situation complètement différente qui est celle de l'Empire romain. Dans l'Empire romain, quelques mathématiciens grecs survivent encore, le dernier est Archimède, en fait, et après la mathématique disparaît, elle disparaît pratiquement jusqu'à la Renaissance. Et quand la Renaissance va la redécouvrir, elle va en fait redécouvrir cet héritage grec comme tel. C'est-à-dire elle va transporter de la situation grecque où les mathématiques étaient constituées, au-delà et à travers leur oubli, elle va le reconstituer dans une situation complètement différente, qui est la situation de la Renaissance occidentale. Et ça, je pense que c'est l'exemple même de ce que j'appellerai plus tard à la fois l'immanence et l'absoluté des vérités. Elles sont immanentes parce qu'elles sont une création dans une situation déterminée et singulière, et elles sont cependant universelles parce que elles peuvent être ressuscitées dans des contextes situationnels qui n'ont aucun rapport avec celui dans lequel elles sont apparues. Et elles le peuvent pourquoi ? Parce que leur origine est événementielle.
Voilà. Prenons un cas concret, si vous le voulez bien. Non pas que la philosophie ne soit pas concrète, mais justement, c'est le sujet de la discussion qu'on va avoir à présent à Alain Badiou. On va monter sur les planches, sur scène, en compagnie d'Antoine Vitez. C'était le 25 juillet 1984. Et il avait mis en scène L'écharpe rouge, une pièce que vous avez écrite, Alain Badiou. Une sorte de décalque révolutionnaire du soulier de satin de Paul Claudel. Écoutez sa réaction.
Là, dit-il quelque chose, je ne me le rappelle pas par cœur, l'homme est seul, très loin du comité central. Arrive le comité central, et évidemment au comité central, c'est-à-dire à la troisième minute du spectacle, un certain nombre de spectateurs se lèvent et s'en vont. Et je les comprends, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plaisir auquel on s'attend quand on se dit qu'on va assister à une œuvre lyrique, fût-elle une œuvre lyrique contemporaine, plaisir qui est giflé par cette gifle au goût du jour, par gifle au goût public que représente l'introduction de l'impur dans le pur. Il y a un réputé impur qui est l'impur de la politique et l'impur du parti, essentiellement c'est l'impur du communisme si vous voulez, qui est comme ça projeté au visage des spectateurs. Si on passe cette difficulté, alors on peut, je crois, écouter cette œuvre avec plaisir.
Antoine Vitez sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, comment l'avez-vous rencontré Alain Badiou ?
J'ai rencontré Antoine tout simplement en lui envoyant ma pièce.
Qu'il a voilà. accepté de mettre en scène directement ?
Qu'il a accepté très tôt de mettre en scène, non sans quelques discussions et difficultés. Il a fallu qu'il pense à sa transformation en opéra en réalité. C'est-à-dire qu'il a confié avec son copain et son camarade à Pergis de réaliser ça sous la forme d'un opéra. Voilà, donc c'était simplement là le filon théâtral. Je vous rappelle que j'ai commencé en disant qu'une de mes options était d'être comédien. Au fond, je suis peut-être quelqu'un qui ne sacrifie rien de ses étapes successives. Voilà. Et donc le théâtre a toujours été très important pour moi dans une relation intime comme ça. Et avec l'écharpe rouge, j'ai tenté alors un tout autre type de fusion, vraiment, qui était la fusion entre le lyrisme quasi épique de la langue de Claudel et puis la discipline de la politique communiste. Voilà. C'est pour ça qu'il a parfaitement raison de dire que le surgissement du mot même, comité central, dans cette affaire,
faisait fuir les spectateurs.
Effrayé le public, surtout que c'était à l'Opéra de Lyon qui n'était pas peuplé de révolutionnaires, vraiment.
Mais est-ce qu'on ne trouve pas dans le théâtre l'application de ce que vous venez de dire de la philosophie, cette rencontre entre une multiplicité qui est là et l'irruption de ce que j'appellerais la contingence, ce que vous appelez l'événement, c'est-à-dire la manière qu'a le comédien d'incarner dans sa singularité un texte qui est déjà là, qui est déjà écrit, c'est ce que vous venez de décrire de la philosophie.
Absolument, absolument. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait contradiction véritablement entre le goût théâtral et ma conception de la philosophie. Et pas plus d'une certaine manière qu'il n'y a de contradiction par ailleurs avec les mathématiques, qu'on pourrait dire non événementielles parce que purement formelles, systématiques, etc. Mais en réalité, dans une expérience subjective tout à fait considérable qui est la mienne, c'est la joie que vous avez lorsque tout d'un coup, vous vous apercevez que vous avez compris un théorème compliqué. Mmh. Et là, vous sentez bien que ce théorème est une création et que, en le comprenant, vous l'avez en partie recréé, véritablement, et que c'est pour ça que c'est une joie. C'est pas simplement la contemplation d'une structure, c'est le fait que votre propre trajet subjectif, luttant dans la difficulté et l'obscurité de la démonstration, tout d'un coup s'éclaire et que vous savez à la fois que ce théorème, en réalité, n'avait pas de raison nécessaire d'exister. Il a été inventé par un créateur, un génie, etc. Il a une dimension de surgissement, et qu'en même temps, il est, comme cela, il est indéfiniment et pour toujours dans la structure d'une vérité universelle. Donc je suis d'accord avec vous, ni dans les mathématiques, ni dans le théâtre, il n'y a de contradiction flagrante avec l'univers philosophique, puisque, au fond, l'univers philosophique tentait de les réconcilier.
Mais structure, système, univers, philosophique, mathématique, il n'y a pas beaucoup de place pour le doute dans tout ça ?
En vérité, si, parce que la question de... Alors, on entre dans des questions différenciées. Il y a la question de savoir si on a réellement affaire à une vérité ou pas, c'est une question qui requiert quand même une grande attention et un certain scepticisme inaugural. Parce que, à partir du moment où des vérités comme des créations ont existé, beaucoup d'autres créations peuvent se présenter comme des vérités qui n'en sont pas, évidemment. Et donc, vous allez avoir l'instrument philosophique au service, autant que faire se peut, d'une distinction efficace, efficiente, entre des propositions de vérité fallacieuses et des propositions de vérité réellement créatrices.
Oui, mais ça, c'est la falsification, la méthode qu'on emploie en mathématiques. C'est pas le doute du sceptique, le doute de Montaigne, le doute, vous n'aimez pas beaucoup. Vous les appelez même les antiphilosophes, l'antiphilosophie. C'est celle de Pascal, celle de Kierkegaard, celle de Wittgenstein, qui ont une conception de la philosophie qui est davantage pratique que théorique.
Elle est pratique, mais elle a une vertu, c'est que elle rappelle toujours que vérité ne peut pas faire disparaître, ne peut pas être en exception de la notion de sujet. Et ça, c'est pour ça que, au fond, l'antiphilosophie, elle surgit dans les moments où la philosophie est exposée à un risque dogmatique qui ferait que les vérités sont transitives purement et simplement à l'être lui-même, et qu'elles ne sont pas événementielles, qu'elles n'ont pas de part de contingence. Et c'est une tentation de toute grande philosophie, y compris Descartes ou Hegel. On voit bien le moment où quand même quelque chose comme ça s'installe dans le discours philosophique. Et l'antiphilosophie vient à sa manière, mais peut-être en basculant beaucoup trop, elle, du côté de la contingence et de la subjectivité, vient rappeler que ce n'est pas comme ça. Et qu'une vérité est une création, et qu'en tant qu'elle est une création, elle doit être interrogée quant à sa puissance subjective elle-même. De sorte que ce que j'appelle les antiphilosophes sont ceux qui rendent le grand service à la philosophie, que par ailleurs ils vitupèrent et détestent, Descartes inutile et incertain, etc. Ils lui rendent le grand service de la rappeler à l'origine effective des vérités dont elle traite, et origine effective qui ne fait pas l'économie de la contingence, du hasard, de la supplémentation, et même de la possibilité de la fragilité, c'est-à-dire la possibilité qu'une vérité disparaisse pendant un temps considérable avant d'être repensée, re-événementialisée dans un autre monde.
Quittons les planches de la scène de théâtre et Antoine Vitesse pour aller sur une autre scène, celle du Festival de Bayreuth en compagnie de Wagner et sa Valkyrie.
Yeah.
nous avez dit, Alain Badiou, que dans votre travail philosophique, vous tentiez peut-être de réconcilier les mathématiques et la littérature, le travail de votre père et celui de votre mère. Ici, le dieu Wotan dit adieu à sa fille Brunhilde, qui a choisi de suivre les lois de l'amour et qu'il va donc destituer de sa divinité. Il l'abandonne sur un rocher et trace un cercle de flammes autour du corps donc de sa fille, de Brunhilde. On est ici dans une autre conception de la parentalité, on peut le dire ainsi.
Oui, mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est très frappant dans cette scène. C'est à vrai dire que l'animation musicale dit autre chose que le livret en partie. Et ça, c'est les fonctions également événementielles de l'art ou subjectives. C'est-à-dire que l'art peut dire autre chose que ce qu'il dit de façon immédiate. Parce que ce qui est très frappant, c'est la transcription musicale d'une émotion quasi intense et infinie du côté de Wotan. Il décide ça. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il est extraordinairement malheureux de le décider, qu'il n'en a aucune envie en réalité.
Le chant dit autre chose que ce qu'il prononce,
la parole. Exactement. Le chant contredit les mots. Là, il dit vol, il dit au revoir, il dit adieu, mais de façon pathétique et quasiment amoureuse. On voit bien que finalement, sa fille Brunhilde est en ce moment-là ce qu'il aime le plus au monde. Et donc on a la figure tout à fait théâtrale, d'ailleurs, qui a beaucoup d'ancêtres, de la nécessité de sacrifier ce qu'on aime. Et alors, cette nécessité de sacrifier ce qu'on aime, ça, c'est parce qu'il est un dieu, parce qu'il faut qu'il assume qu'il est un dieu. Il est un pauvre dieu. D'ailleurs, un dieu qui, dans l'opéra suivant, va mourir, en fait, va disparaître. Et déjà là, cette disparition est à l'œuvre parce que on voit bien que ce que le dieu doit faire, c'est précisément ce qu'il déteste de faire, ce qu'il ne veut pas faire, et que donc c'est un dieu malade.
La musique, et en particulier celle de Wagner, pour vous Alain Badiou, et en particulier la Valkyrie, en particulier le monologue de Wotan, que le théâtre ou la philosophie ou les mathématiques ne pourraient pas dire?
Alors ça, ça s'insère dans une théorie plus générale qui est celle des conditions de la philosophie. C'est comme ça que je les ai appelées. Au fond, parvenu à un stade avancé de l'élaboration, je me suis rendu compte que la philosophie, en tout cas la mienne, mais à mon avis, on peut soutenir que la philosophie dans toute son histoire avait quatre références antérieures à elle-même, qu'elle ne naissait pas de rien. Elle ne sait pas, c'est pas vrai qu'elle naît d'un point zéro, c'est-à-dire d'un doute constitutif dont tout sortirait. Ça, je ne le crois pas. Elle est toujours dans un contexte de vérité, justement. C'est-à-dire un contexte de création. Alors, ces créations, je crois qu'elles se disposent dans quatre registres, finalement. Il y a le registre de la science, bon ça c'est un des plus repérés dans la philosophie classique. Il y a le registre des arts, il y a le registre de la politique, et puis il y a le registre le plus pur et le plus intense de la subjectivité, que j'appelle moi le registre de l'amour, parce que c'est paradigmatique. Alors, je considère que ces quatre dispositions, qui sont aussi des dispositions créatrices, inventives, toutes les quatre, sont des dispositions qui sont antérieures à la philosophie et qui, au fond, constituent ses conditions. Et ça, depuis le début. On peut parfaitement voir que la philosophie en Grèce n'a pu surgir, c'est l'évidence même, que parce qu'il y avait et la tragédie et les mathématiques. Ça, c'est certain. Il suffit de lire Platon pour s'en rendre compte. Et puis, il y avait aussi la guerre du Péloponnèse, la question de la démocratie. Et quant à la question de l'amour, je rappelle toujours que Platon dit que celui qui n'est pas capable d'être amoureux ne sera jamais philosophe. Voilà. Alors, on tire de tout ça une théorie à peu près cohérente des conditions de la philosophie. Et alors, à l'intérieur des conditions, il y a le problème de leur différence, qui est votre question. Qu'est-ce que le chant de Wotan dit que les mathématiques ne peuvent pas dire ? Ce que le champ de Wotan dit que les mathématiques ne peuvent pas dire, c'est précisément la contradiction. La contradiction subjective, la contradiction telle qu'un sujet en fait l'expérience, pas simplement la contradiction formelle. Les mathématiques connaissent la contradiction formelle dans le raisonnement par l'absurde, où on démontre que quelque chose est vrai parce que c'est pas possible qu'il soit faux. Voilà, une chose de ce genre. Mais la contradiction véritable est celle dont nous parlions à l'instant, à savoir que Wotan est déchiré par le fait qu'entre sa fonction en quelque sorte social d'être un dieu et la situation effective qui lui est imposée au regard de sa fille, il y a une contradiction subjective, et l'art va exprimer cette contradiction. Il va avoir comme substance cette contradiction. Alors après, on peut trouver des tas d'autres contradictions. Par exemple, dans la peinture, il y a une contradiction évidente entre le caractère radicalement singulier du sensible et l'universalité de sa représentation. C'est-à-dire que transformer finalement un paysage ou une fleur ou un pot de fleurs en quelque chose d'éternel finalement. Et ainsi de suite. Donc je crois qu'on peut énumérer le système de ce que peuvent faire les conditions que les autres conditions ne peuvent pas faire. Quant à la philosophie, elle va s'emparer de tout ça, avoir tout ça comme condition pour élaborer des catégories plus générales qui sont en quelque sorte dérivées, mais aussi universalisées par rapport aux capacités des conditions.
On parlait de réconciliation tout à l'heure. Est-ce que la philosophie serait là, aurait pour vocation de réconcilier ces contradictions, de les dépasser ? Comme s'il était impossible de vivre avec elle ?
La philosophie a pour vocation de s'en nourrir. C'est-à-dire que je peux montrer que chacune des conditions à son régime propre de vérité. Une vérité, je le rappelle, ce n'est jamais qu'un champ événementiel traité par une procédure subjective. Ben, des choses événementielles traitées par une procédure subjective, nous les avons dans les quatre conditions, bien évidemment. Si je prends l'amour, par exemple, eh bien, l'événement d'une rencontre avec quelqu'un va être traité dans la figure de l'amour comme une procédure qui va montrer que, d'une certaine façon, quelque chose d'universel était en jeu dans cette affaire. Mais on pourrait montrer la même chose sur les trois autres conditions. Une révolution politique, c'est une révolution qui survient, qui advient, mais dont le traitement définit ou ne définit pas, d'ailleurs, un autre régime possible de l'administration de l'humanité. Et ainsi de suite. Alors la philosophie, c'est la généralisation de tout ça, c'est-à-dire avec les catégories d'être, de multiplicité, d'événements, de procédures de vérité, etc., etc. Elle formalise, en un certain sens, ce que les conditions réalisent dans le réel. Et le système des quatre conditions, c'est le système des différences possibles dans les différentes formes de vérité.
Vous avez écrit, je l'ai dit en début d'émission, plus d'une centaine d'ouvrages. Votre dernier livre aux éditions PUF porte sur Trump. On peut le lire, il est disponible. Vous analysez les processus d'élection de Donald Trump comme étant l'expression d'une volonté de sortir du capitalisme. Quand on écrit autant, est-ce parce qu'il reste des choses nouvelles à dire que vous n'avez pas dites, ou est-ce que vous essayez d'explorer la même idée? Il faut une idée, hein. C'est vous qui le dites, hein. Le philosophe, il a une idée qu'il essaie d'explorer encore et différemment, de manière à essayer d'en faire le tour.
Alors, je pense qu'il y a, dans cette efflorescence, je pense qu'on peut l'éclairer de deux façons. La première, c'est que, quelquefois, j'interviens de façon extrêmement proche de la condition de la philosophie, J'ai quand même écrit des textes dont il est difficile de savoir s'ils sont philosophiques ou s'ils sont politiques. C'est-à-dire que c'est le cas où ma vocation de philosophe se rapproche presque de façon immanente d'une des conditions. De la même manière, quand j'écris une pièce de théâtre, on peut dire que je suis dans le registre artistique. Même si, comme le théâtre de Sartre, quelque chose de la philosophie nourrit, irrigue ou éclaire, on est quand même dans la condition elle-même. Ben, évidemment, si j'aime une femme, c'est aussi dans la condition, tu sais pas. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai écrites qui peuvent être très proches d'une condition. Par exemple, j'écris un livre sur le concept de nombre. Mm-hmm. Là, je suis très proche des mathématiques. Si j'écris un livre sur la question dite des migrants aujourd'hui, je suis quand même dans la conjoncture. De la même façon, si je fais le portrait de Trump, et je me promène ainsi, moi, un peu dans une sorte d'investigation rapprochée des conditions. Voilà. Et puis, il y a le noyau philosophique proprement dit qui, lui, est déployé de façon quasiment essentielle dans la trilogie dont nous avons parlé. C'est-à-dire être et événement, logique des mondes, immanence des vérités. Et donc je suis constitué comme ça, c'est-à-dire il y a un côté, il y a un massif central, appelons-le comme ça, il y a un massif central et puis il y a des explorations frontalières.
Oui, mais votre engagement politique n'est pas qu'une exploration frontalière de ce massif central, on n'en a pas parlé au cours de cette émission, il nous reste quelques minutes, vous êtes aussi engagé, vous étiez à l'époque, vous me direz c'est encore le cas aujourd'hui, maoïste, vous avez soutenu les actions de Mao, vous êtes encore engagé au moins communiste, comment est-ce que ce que vous dites de votre philosophie, ce système-là, est-il compatible avec votre engagement politique qui a pris beaucoup de place chez vous?
Vous savez, pour connaître une condition de la philosophie, il faut aussi alors l'expérimenter au niveau existentiel. C'est-à-dire que on ne parle pas philosophiquement de la politique en lui étant totalement étranger.
Oui, mais c'est pas uniquement à des fins philosophiques que vous êtes engagé politiquement.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça. C'est-à-dire que j'abordais la chose tout à l'heure du point de la philosophie. C'est-à-dire j'écris des livres qui sont du point de la philosophie, borderline, si je puis dire, par rapport à une des conditions. Mais par ailleurs, il y a ma vie. Ma vie, elle est comme une vie de tout le monde, après tout. Il faut aussi rappeler que le philosophe, il a une vie comme tout le monde. Il n'est pas en surplomb de la vie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est autre chose. Ça veut dire que je réfléchis sur la politique comme condition de la philosophie, mais je m'engage dans des situations politiques constituées d'une manière ou d'une autre. De la même manière, quand je suis en train de résoudre... j'ai fait des mathématiques toute ma vie, et des mathématiques assez complexes, parce que je m'intéressais aux mathématiques contemporaines. Quand je suis en train, en pleine nuit, de ruminer un problème parce qu'il y a une démonstration que je ne comprends pas, je suis en train de faire des mathématiques, tout simplement, là, de façon... etc. Et donc, il y a les écritures qui sont... originé par la philosophie dans d'une proximité variable au système des conditions. Et puis, il y a la vie en tant que...
Vous distinguez les deux, mais ça veut dire que le philosophe que vous êtes, est-ce que vous pensez qu'il a un rôle politique à jouer? Ou est-ce que vraiment pour vous, c'est deux parties de vous différentes?
En vérité, je pense tout de même qu'il a un rôle, mais il faut qu'il sache qu'en tant que philosophe, ce rôle n'est pas prescrit au même sens que en tant que citoyen ou en tant que militant.
Donc c'est vraiment deux choses distinctes.
Ce sont deux choses tout de même distinctes. Alors la distinction est difficile à stabiliser parce qu'on passe de l'un à l'autre évidemment constamment. Néanmoins, je sais très bien moi que quand je suis en train d'écrire un livre de philosophie sur le concept de nombre, c'est une expérience alimentée par, mais différente de quand je suis en train d'étudier et de pratiquer la théorie mathématique des nombres.
Mais vous prenez le risque aussi pour votre lecteur de tenir votre travail philosophique comme étant l'expression d'un communisme déguisé, par exemple.
Oui, non, mais ça, le lecteur fera ce qu'il veut.
Non, mais vous dites bien que cette distinction, elle n'est pas aussi claire
vous êtes bien obligé de considérer que la philosophie, c'est le résultat d'un horizon de conditions systématiques et complexes, et que, de ce point de vue-là, contrairement sans doute à une vision plus classique de la philosophie, les engagements du philosophe peuvent être des sources de sa philosophie, mais non pas des conséquences. C'est pas parce que je parle de la politique dans le champ de la philosophie, ça ne prescrit pas mes engagements politiques. C'est l'inverse. C'est-à-dire, certains de mes engagements politiques alimentent la réflexion philosophique sur la condition politique en général. Et donc, il y a un aller-retour, mais l'aller et le retour ne sont pas identiques. C'est pas la même relation.
On va se quitter avec une dernière question. C'est votre collègue Jean-Luc Nancy qui vous la pose.
Je me rappelle qu'une des premières fois où je l'ai rencontré, il m'a approché de moi. Bah, il savait que j'avais été transplanté du cœur. Alors, il s'est approché un peu solennellement. Il m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question vulgaire? Comment allez-vous? Quel est votre sentiment? Et c'est puisque j'ai répondu, mais j'ai trouvé cette question pas vulgaire du tout, et j'étais étonné de ce que lui, justement, ne mette pas aussi bien la santé ou l'état du corps sur le même plan que l'idée. Alors, Alain, simplement, comment tu vas?
C'est Jean-Luc Nancy qui vous pose la question. Alain Badiou, qu'est-ce que vous lui répondez? Comment tu vas, pose-t-il comme question?
Vous savez, on revient là... à l'origine, avant tout ça, avant tout ce dont on a parlé, C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous intéresse ou que vous aimez, etc., et qui... Et que soit vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit dont vous savez qu'il est affaibli, malade, etc. Et c'est dans cette situation, comme au regard de tout ce qui se passe dans le monde, le philosophe commence par demander comment c'est, où ça en est, voilà, où ça en est. Et donc, comment allez-vous ? C'est une question primordiale.
Qui arrive à la fin dans cette émission. Absolument. Vous avez le choix, on peut se quitter avec une chanson d'Anna Karina ou une chanson de Nino Ferrer qui s'appelle Mao et moi. Qu'est-ce que vous préférez ?
Bon, allons-y pour Mao et moi.
Allez, c'est parti. Merci Alain Badiou.
Xinjian, ni hao bu hao. Mao Mao Chungi, da hao Chungi. Nali Bali, Nali Beijing. 那都要我乖乖去，中国发布朋友，要为钱怪地，我是你诺，但是老都不一样。 Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes mao croisés, me disent un esquimao, c'est grâce à la pensée mao. Que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court. Moi je dis qu'un bon moment vaut bien de cornes d'éléphant. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire dans tous les je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Ting ting, voilà elle. Jugo wo tao Beijing tu. Wanzong fa quo, yao lai le. Wadi penyu, yao cheng wo, mao yu ji. Je dîne avec Thérèse, je prends des œufs durs mayonnaise.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Et aujourd'hui Adèle, j'aimerais vous parler du sourire, le pouvoir du sourire, la puissance du sourire, la force du sourire, l'importance du sourire. Ce sont quelques-unes des formules sur lesquelles je suis tombée en faisant des recherches sur le sujet suite à un événement qui m'était arrivé quelques heures auparavant. Quelques heures auparavant, en effet, en pleine circulation dans Paris, un cycliste m'avait gentiment lancé
« Arrête de faire la tête, souris, tu vas voir, ça va te faire du bien !»
Une agression sous forme de conseil, rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, là, je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Pourquoi ne pas sourire? Pourquoi ne pas afficher un air heureux qui pourrait éviter ce genre d'altercation? Mais pourquoi? Pourquoi afficher seulement un sourire? En quoi cela serait-il déterminant?
Un sourire nous semble peu de choses et sans effet sur l'humeur. Aussi, ne l'essayons-nous point. Mais la politesse, souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, nous change tout. Le physiologiste en sait bien la raison, car le sourire descend aussi profond que le bâillement et, de proche en proche, délie la gorge, les poumons et le cœur. Le médecin ne trouverait pas, dans sa boîte à remèdes, de quoi agir si promptement, si harmonieusement. Alain.
En tapant « sourire » sur mon moteur de recherche internet, je ne pensais pas trouver autant de littérature sur le sujet. Il faut le dire, malgré sa profusion, elle est assez monotone. Car en fait, tout le monde s'accorde sur les bienfaits du sourire, citant au besoin cette pensée du philosophe Alain qu'on vient d'entendre et misant tous sur cette idée centrale, le lien fondamental entre sourire et bien-être. Assez évidente, cette idée ne fait que décrire le fait que quand on va bien, on sourit spontanément. On est heureux et notre attitude, notre visage révèle ce bien-être. Mais plus maligne que ça, cette littérature va en fait plus loin puisqu'elle postule le rapport inverse. Quand on va mal, sourire pourrait en retour nous faire aller mieux. Ce qui revient donc au conseil du cycliste que j'ai rencontré. Mais je me suis demandé, est-ce si vrai? Sourire peut-il, suffit-il à rendre heureux? Se dire qu'il faut sourire et le faire, et s'y forcer et s'y contraindre, n'est-ce pas le contraire du bien-être profond, intérieur? N'est-ce pas qu'une façade qui fait écran à notre être?
Comme vous le savez peut-être déjà, le sourire a énormément de bienfaits. Il permet de comprendre beaucoup de choses, de dire oui à la vie, de faire passer plein de messages. Et par exemple, il peut réjouir un désespéré.
En lisant, mais aussi en regardant tous ces conseils prodigués pour apprendre à sourire, j'ai été frappée par une chose, la tristesse qui s'en dégageait. Il y a quelque chose de profondément paradoxal quand on parle du sourire ou quand on l'encourage à le faire. Sa dimension mécanique, son côté forcé, pas authentique, et du coup son aspect pathétique, désespérant et voire même effrayant. J'ai quand même décidé de jouer le jeu, j'ai moi aussi souri, j'ai pensé au fait de sourire, et je l'avoue, je me suis sentie très bête. Car comment réfléchir à quelque chose qui ne se contrôle pas ou ne le devrait pas? Et comment aller mieux en transformant son visage, en y plaquant un sentiment factice? Dans les textes neurologiques et cognitifs sur le sourire, on distingue le sourire réflexe, du sourire spontané, proche du rire, du sourire moqueur, cynique et hautain, du sourire enfin, forcé, qu'on arbore en société. Mais quelle différence faire entre ce dernier, le sourire de société, du sourire qu'on me demande d'afficher pour aller mieux? C'est une vraie question car le développement personnel précise que le sourire pour aller mieux n'est pas le sourire forcé. Et pourtant, quelle différence y a-t-il? Quelle différence y a-t-il entre se forcer à sourire pour ne pas faire de vagues et sourire pour ne plus avoir de vagues à l'âme?
Sourire, sourire, toujours sourire, même si l'on te traite de petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme si tu buvais du petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme un enfant devant le dessert, comme un chameau devant le désert. Sourire à livre, à lèvres ouvertes. Et si tu...
Au fond, le problème du sourire est celui de l'air qu'on affiche, qu'on devrait afficher pour les autres ou pour soi. L'air qui, comme l'autosuggestion de la méthode Coué, agirait magiquement sur l'âme. Mais le problème, je crois, n'est pas celui de la correspondance entre l'air et l'être, entre l'apparence et l'intériorité. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux, une causalité. Non, le problème, je crois, est dans cette idée d'autosuggestion par la mimique, par le rictus, par la moue, toutes ces contractions du visage qui le figent, qui n'en font pas l'interface face entre nous et le monde, mais un mur, une barrière. Pire, un mur sur lequel on affiche un simulacre de bonheur qui, loin de le laisser transparaître, trahit en effet un profond malaise. Je continue donc à ne pas penser à l'air que j'ai et ça, ça me fait vraiment du bien.
Vous voyez, ça vous fait sourire, Géraldine. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci beaucoup à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui nous fait sourire tous les jours et qui surtout fournit un travail monumental pour que chaque émission ait lieu. Aujourd'hui, Manon de la Selle, en compagnie de Jules Barbier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation, Swad Boukorsa à la prise de son. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions sur l'architecture. Nous serons en compagnie de Michael Labbé, l'architecture en philosophie, ça ce sera le programme de lundi prochain. On recevra mardi l'architecte Jean Nouvel, on parlera des textes de Heidegger sur l'habitat, le bâtir et l'architecture donc. Et on terminera la semaine en parlant de Notre-Dame de Paris. D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. L'équipe des Chemins attend vos remarques et vos commentaires. À lundi, avec plaisir, 10h précises. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.